Vous écoutez, on lit pour vous.
Une deuxième vie pour les savants d'hôtel, un texte de Daphné Cameron, paru le 27 janvier 2025, dans la presse. Qu'arrive-t-il aux savons que vous avez à peine utilisés après votre séjour à l'hôtel? En France, près de 51 millions d'entre eux sont jetés chaque année. Un organisme lyonnais s'est donné comme mission de mettre fin à ce gaspillage. Depuis sa création en 2017, Unisoap a recyclé près de 70 000 savons d'hôtel pour les remettre à des plus démunis. On pense souvent aux besoins alimentaires, mais en fait, les personnes en situation de précarité ont aussi des besoins en ce qui concerne l'hygiène et le bien-être, souligne Océane Chancel, chargée de communication chez Unisoap, en entrevue téléphonique. Selon l'organisme, près de 3 millions de personnes n'ont pas accès aux produits d'hygiène de base en France. Grâce à des partenariats avec différentes associations comme la Croix-Rouge, l'Armée du Salut ou les Restaurants du Cœur, les savons sont remis à des personnes sans domicile fixe, des réfugiés, des femmes victimes de violences, des personnes handicapées et des étudiants. C'est essentiel dans la société de pouvoir se laver. Pour l'inclusion, c'est vraiment très important, ajoute Madame Chancel. Comment ça fonctionne? Les hôtels ramassent d'abord les savons. Ils font ensuite un don en argent à Unisoap, proportionnel à leur nombre de chambres. Les hôtels qui travaillent avec nous, ce sont nos principaux mécènes, explique Madame Chancel. Leur don est déductible d'impôts à hauteur de 60 %. Pour eux, ça ne revient à pas grand-chose, mais pour nous, ça permet de faire perdurer l'activité. De grandes chaînes participent au projet. Radisson, Best Western, Accor, entre autres. L'organisme fait affaire avec 470 hôtels partenaires en France, en Belgique et en Italie. En 2023, Unisoap a ouvert une antenne aux Émirats arabes unis. Dans les hôtels, derrière, il y a aussi les salariés, ceux qui nous donnent les savons. Eux aussi sont contents parce qu'ils constataient qu'il y avait un gaspillage phénoménal et ils ne savaient pas comment faire, comment agir, affirme Océane Chancel. Pour des raisons d'hygiène, la couche supérieure du savon est retirée complètement. Contrairement au savon liquide, le savon solide est bactériostatique. Les bactéries ne peuvent pas s'y répandre à l'intérieur. Le savon est ensuite fondu pour être reconstitué en pain de savon. Jusqu'ici, 16 tonnes de savon ont été récupérées. Ces tâches sont réalisées au sein d'établissements et services d'accompagnement par le travail, ESAT, des lieux où des personnes handicapées peuvent travailler en bénéficiant d'un soutien médical et social. Tout est dans un lieu adapté pour qu'elles puissent monter en compétences et, plus tard, travailler dans une entreprise « entre guillemets classique », explique Madame Chancel. Les draps d'hôtel aussi. En plus des savons recyclés, Unisoap collecte depuis 2 ans les surplus des entreprises qui fabriquent des produits d'hygiène et de cosmétiques, les invendus, les fins de série ou ceux avec de petits défauts de qualité. On ramasse des brosses à dents, du dentifrice, du maquillage, des couches ou encore du détergent. Ces kits d'hygiène sont ensuite emballés dans des sacs fabriqués à partir d'anciens draps d'hôtel. Comme ce sont des objets du quotidien, dit Madame Chancel, on ne se rend pas compte à quel point ça peut manquer. Et à quel point ça peut vraiment apporter du bonheur à une personne et parfois même à une famille entière. Pour Océane Chancel et ses collègues, la partie la plus valorisante de leur travail est d'aller sur le terrain. « Ça nous redonne envie de travailler tous les jours », dit-elle. À la fin, il y a une vraie finalité, il y a vraiment des personnes que ça aide. C'était « Une deuxième vie pour les savons d'hôtel », un texte de Daphné Cameron, paru le 27 janvier 2025 dans la presse.
Pierre Lapointe, cœur abîmé à découvert. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue. En plus d'être prof de musique à Star Academy cet hiver, Pierre Lapointe lance 10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé, titre d'un album aussi vulnérable qu'époustouflant qui nous habitera encore longtemps. Tu es apparu dans le paysage musical en empruntant des codes à la vieille chanson française, mais j'ai l'impression que tu te renouvelles constamment. J'ai toujours voulu faire évoluer la chanson. Punk était un exercice où on faisait tout exploser. Sentiments humains, c'était plus glam rock. Dans la forêt des mal-aimés, j'explorais jusqu'à quel point je pouvais être pop, avec des sons électro qu'on entendait peu dans ce temps-là et des trucs ringards dans lesquels je pigeais allègrement. Ça faisait de moi un chanteur très postmoderne. Je mélangeais plein de vieilles affaires pour faire du nouveau. Qu'en est-il de ton nouvel album? Je l'ai écrit sans m'en rendre compte. Durant la pandémie, je me suis enfermé pendant une semaine, sans chum et sans amis. J'écrivais presque jour et nuit sans savoir quelle heure il était. Puisque j'avais déjà le matériel pour enregistrer l'album Chansons hivernales, j'écrivais pour passer le temps et pour offrir les chansons à des artistes qui chantent mieux que moi. Je me suis inspiré de Brel, Aznavour, Michel Legrand, Nina Simone, David Bowie. Un jour à Paris, alors que je passais du temps avec Julien Clerc, Carla Bruni et Mélissa Lavaux, j'ai réalisé qu'ils aimaient mon travail, parce que je fais de la musique française plus que les Français osent en faire désormais. J'ai ensuite dit à mon gérant que je ne donnerais pas mes chansons qui dorment et que j'allais faire un album de chansons françaises à l'ancienne. Qu'ont-elles de démoder ces 10 chansons? Leur facture, le fait de construire des textes de façon aussi rigoureuse et d'arriver avec une structure composée de couplets, ponts et refrains, c'est rétro quand on compare avec le hip-hop qui occupe les premières places des palmarès. Mais déjà, être démodé, c'est quoi en ce moment? Sur les réseaux sociaux, le vintage est vraiment à la mode et les images de toutes les époques se mélangent. L'idée de courant me semble de moins en moins vraie. J'ai toujours dit que le meilleur moyen de ne pas être démodé était de ne pas être à la mode. Tu parles de tes idoles déjà mortes et de la volonté de les imiter. Qui as-tu tenté d'imiter? Les Dada et Jean Cocteau. Au fond, tout le monde essaie de correspondre à une image et d'en jeter plus à la gueule des gens. Mon métier, ce n'est que ça. Avant mes débuts, je marchais en jogging sur Mont-Royal. Je vivais dans un petit 4,5 et je travaillais, 6 mois avant, comme concierge dans un foyer de personnes âgées. Lorsque le premier album est arrivé, les gens m'appelaient « monsieur » et me parlaient en poésie. Je me suis fait prendre par le personnage que je projetais publiquement. Comment est-il né? Quand j'ai étudié en théâtre à Saint-Hyacinthe, on a fait l'exercice du neutre pour savoir ce qu'on dégage sans effort et tout le monde disait que je pourrais jouer un prince, alors qu'on venait de faire plein de jokes de cul et que j'étais habillé en jogging. Plus tard, quand je suis arrivé sur scène pour chanter la première fois, j'étais si stressé que j'ai décidé de m'habiller avec un habit 60s trop serré. Je suis arrivé pieds nus et je n'ai rien dit. Les gens ont compris que j'étais sûr de moi et que je faisais de la scène depuis des décennies, alors qu'à l'intérieur, je me décomposais. Quand est venu le temps de promouvoir le premier album, je suis resté dans cette veine-là. En écoutant, comme les pigeons d'argile, je ne peux m'empêcher de comparer cette vulnérabilité très claire aux métaphores, parfois abstraites, parfois directes, de tes débuts. Aujourd'hui, je peux me révéler, mais je ne le fais pas toujours. Quand j'ai parlé de la maladie de ma mère dans la semaine, on m'a demandé des photos d'elle, mais j'ai refusé. Je reste pudique. On n'a jamais vu mon chum ni ma maison. Cela dit, à mes débuts, j'avais un univers émotif anormalement riche qui nécessitait beaucoup de gestion. Ça avait besoin de sortir, mais je n'avais pas le recul pour parler de mon vécu assez rough. J'ai donc décidé de faire comme un peintre qui travaille la matière avant de commencer à illustrer des choses. Je pensais que si je touchais les gens en restant abstrait dans mon écriture, j'allais un jour les faire brailler en utilisant des images précises. J'ai travaillé comme ça pour les premiers albums, le temps de vivre ma vie et de devenir un vrai adulte. Qu'est-ce qui t'a fait franchir cette étape? Ma dépression à 26 ans quand je vivais mon plus gros pic, la forêt des mal-aimés. Je n'étais plus capable de marcher. Je m'endormais et je me réveillais en pleurant. C'était atroce. Peu à peu, ça m'a aidé à devenir un peu plus adulte. Vers 37 ans, j'ai commencé à me sentir bien. C'est pour ça que je suis capable d'écrire des chansons aussi vulnérables et que je joue avec la création sans la sacraliser. Je suis dans une dynamique de jeu. À quel point est-ce vertigineux de savoir que les gens voient ce que tu as dans le cœur? J'ai toujours parlé de moi. Dans le Lion imberbe, je parlais de quelqu'un qui n'est pas bien nulle part. Tel un seul homme, c'est le fondement de ma personne. L'enfant de 5 ans qui réalise qu'il va mourir et qu'il est inutile. Ça m'a libéré de l'écrire, car pour la première fois, j'avais réussi à faire du beau avec ce sentiment qui m'habitait depuis toujours et qui me suit encore. Tu affirmes aussi qu'il y a un mythe de la sincérité autour des personnalités publiques. On a souvent l'impression que les gens sont vrais parce qu'ils montrent leur appartement. Moi, j'ai quand même fait la chanson « Quelques gouttes de sang » où je dis à la personne qui m'a laissé qu'elle n'a pas le droit parce qu'on ne laisse pas quelqu'un comme moi. Comme un enfant qui dit « Je vaux plus cher que tout le monde », que je me branle tous les soirs en pensant à lui et qu'il m'appartient encore pendant ce temps-là. Ça, c'est de l'intimité. Je reste très pudique sur des détails futiles, mais quand vient le temps de parler d'émotions, je n'ai aucune pudeur. La maladie de ta mère génère-t-elle une urgence de dire certaines choses en création? J'ai toujours senti cette urgence, mais maintenant, je vis concrètement la peine d'une perte de quelqu'un qui m'est cher, une perte de contrôle et le deuil d'une forme de relation que je n'aurai jamais avec elle. Je suis très proche de mes parents, mais notre relation ne ressemble en rien à ce que j'aurais voulu. Même chose pour eux, je pense. N'empêche, cette urgence de vivre, je l'ai depuis que je suis enfant. Elle est en phase avec mes moyens aujourd'hui. Quand j'ai eu la nouvelle, j'animais le premier gala de la disque et j'avais une migraine qui a duré 2 jours et demi. Mon manager m'a dit que j'étais peut-être en choc post-traumatique. Je venais de placer ma mère dans un foyer. Il m'a suggéré d'arrêter un peu. L'as-tu écouté? J'ai appelé ma comptable pour savoir si je pouvais arrêter de travailler durant 1 an. Je me suis mis à créer sans pression et à voyager. J'arrivais parfois à la maison le vendredi et j'annonçais que je partais mardi à Paris ou à Londres pour me ressourcer. J'ignorais si l'argent que je dilapidais allait revenir, mais tant pis. Je ne suis pas millionnaire, mais j'avais besoin de me reposer et de faire la paix avec les événements. J'ai aussi reconnecté avec le dessin dans cette période-là, alors que ma mère rêvait de devenir artiste visuelle. Quand elle a commencé à disparaître, j'ai pris le relais en me donnant le droit d'y aller. L'album contient une conversation avec la mort et une chanson dans laquelle tu réfléchis à ce qu'il advient des petits et grands moments qui nous composent. Quel est ton rapport avec la mort? Enfant, j'étais suicidaire. J'avais beaucoup de difficultés à l'école. Le jour où j'ai réalisé que je n'étais pas stupide, mais que je ne cadrais pas dans cette boîte-là, j'ai dit à mes parents « Préparez-vous, il n'y a plus rien pour m'arrêter ». Quand mon prof de français théâtre en secondaire 4 m'a vu jouer, il m'a gardé après un cours pour savoir ce que je voulais faire plus tard. j'ai dit que j'envisageais peut-être de jouer. Il a proposé de me coacher pour les auditions dans les écoles. Je suis entré à Saint-Hyacinthe. Une autre prof m'invitait à aller au musée avec elle. Une chance que j'ai eu ces gens-là. En quoi ta musique connecte-t-elle davantage avec les gens qui ont le cœur abîmé? Tout le monde a le cœur abîmé. On a tous une blessure et des rêves inassouvis. On se fait tous un petit personnage socialement acceptable pour se donner confiance, mais on est tous à la même place. Par contre, quelqu'un qui ne fait pas d'introspection, qui n'est pas intéressé à voir un psy et qui pense que les autres ont toujours tort ne sera pas interpellé par mes chansons. À la blague, je dis que c'est quasiment un album de croissance personnelle pour apprendre à être bien. Pourtant, c'est ce que je fais depuis le début. C'était Pierre Lapointe, cœur abîmé à découvert. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue.
Les dangers de la vie à l'envers. Un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 2 février 2025 dans La Presse. Un décalage horaire constant. Chaque nuit, des milliers de Québécois prennent le relais pour éteindre des incendies, conduire de la machinerie ou encore soigner des patients. Ils vivent à contre-courant, au service de la population, mais parfois au prix de leur santé. Un dossier d'Alice Girard-Bossé. Marie-Josée Chagnon est habituée de vivre la vie à l'envers. L'infirmière en Estrie travaille de nuit depuis 11 ans. Si elle tolérait bien le travail de nuit à ses débuts, c'est devenu plus difficile avec le temps. Elle est désormais beaucoup plus fatiguée. Lorsque je suis en congé, j'en ressens les effets jusqu'à 2 à 3 jours suivant ma dernière nuit, ce qui correspond habituellement au moment où je dois travailler de nuit à nouveau. Au fil du temps, elle a développé des brûlements d'estomac, causés par sa consommation de café pour se réveiller sans nécessairement avoir mangé. L'alimentation est difficile car les heures sont atypiques, dit-elle. Elle prend souvent un seul gros repas par jour et quelques collations. En dormant pendant la journée, elle n'arrive pas à atteindre le nombre d'heures de repos dont elle aurait besoin. La vie, dit-elle, n'est pas faite pour avoir ce genre d'horaire. Les rendez-vous de tous les jours qu'on doit prendre, médecins, coiffeuses, dentistes et vétérinaires, sont habituellement de jour et c'est difficile de trouver une heure qui ne brisera pas mon sommeil. Des risques importants. Plus de 300 000 personnes travaillaient de nuit au Canada en 2022. Au Québec, c'est plus du tiers de la population québécoise qui travaille de nuit ou selon un horaire qui la chevauche, selon les fonds de recherche du Québec. La docteure Diane Boivin, directrice du Centre d'études et de traitement des rythmes circadiens de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, souligne que le fait d'avoir un horaire atypique crée un état de désynchronisation circadienne un peu comme un état de décalage horaire constant. Par le fait même, ça perturbe le cycle éveil-sommeil. Cette désynchronisation entraîne d'importantes conséquences. Plus d'un quart des travailleurs de nuit souffrent d'insomnie. Ils sont également plus enclins à l'anxiété et aux symptômes dépressifs, note Annie Vallière, psychologue et professeure à l'École de psychologie de l'Université Laval, qui étudie les troubles du sommeil, notamment chez les travailleurs de nuit. Les conséquences des horaires de nuit sur la santé vont bien au-delà de la fatigue. Des études révèlent une augmentation des risques d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et même de certains cancers, comme celui du sein et de la prostate. Les problématiques ne sont pas roses. Ce n'est pas tout le monde qui travaille de nuit qui va développer ces problèmes-là, mais c'est sûr que ça augmente le risque, dit Mme Vallière. L'infirmière Marie-Josée Chagnon en est consciente. C'est pourquoi je compte changer d'horaire d'ici les 2 prochaines années. un sommeil fragmenté. Au début, j'avais mal au cœur et des fois, j'étais malade parce que je manquais de sommeil, confie le surveillant en centre jeunesse au lac Saint-Jean depuis 12 ans, Jean-François Fortin. Il dort généralement en deux périodes pendant la journée. Un bloc de 4 heures le matin, puis 2 à 3 heures en soirée avant de reprendre son travail. Son horaire lui permet toutefois de toucher une prime intéressante et de passer plus de temps avec sa famille. Ça vaut le sacrifice, estime-t-il. Jean Genet, qui a travaillé en entretien à la Société de transport de Montréal, STM, pendant 3 ans, a aussi vécu l'impact des heures fragmentées. « C'était dur. Je suis devenu zombie », témoigne-t-il. Il dormait à peine 3 à 4 heures par jour à différents moments de la journée. Exténué, il s'est endormi au volant plusieurs fois. « Je me suis déjà réveillé dans l'accotement, face contraire au trafic. Maintenant, c'est fini. Désormais, lorsqu'il est trop fatigué, il prend le temps de s'arrêter et de faire une sieste dans son auto. Il faut faire très attention lorsqu'on a des horaires qui génèrent de la fatigue lors du retour à domicile, parce que nos capacités sont altérées, explique la docteure Diane Boivin. Pour éviter de présenter un risque pour soi ou pour les autres, elle invite les travailleurs à considérer, dans la mesure du possible, des moyens de transport alternatifs comme le covoiturage, les transports en commun ou le taxi. Vous écoutez « Les dangers de la vie à l'envers », un dossier d'Alice Girard-Bossé, paru le 2 février 2025 dans la presse. Je suis plus irritable. La paramédicale de Charlevoix, Daisy Simard, le vit au quotidien. Vivre à l'envers vient aussi avec un autre défi, le risque d'isolement social. Tu essaies de voir tes amis, mais à cause de ton horaire, ça ne fonctionne pas, donne-t-elle en exemple. Je ne vois pas mes collègues ni mes patrons. J'entre sur mon car et il n'y a personne. Je repars et il n'y a personne. Dormir le jour a également un impact sur son humeur. Je suis plus irritable et je suis moins patiente. Elle dort maximum 4 à 5 heures par nuit. Ça lui prend ensuite quelques jours pour récupérer. Les journées de congé, ce ne sont pas des journées très productives. Pour certains, travailler de nuit est un choix. J'ai une meilleure qualité de vie en travaillant de nuit parce qu'on peut comprimer nos horaires. Donc, je fais 6 jours de travail suivis de 8 jours de congé, dit l'infirmière au Centre Mère-Enfant de Québec Marie Pichette. Elle se réjouit d'avoir un milieu de travail très actif la nuit. « Je suis très occupée, donc il n'y a pas de moment où je dois lutter contre le sommeil », dit celle qui travaille notamment en salle d'accouchement et en salle de césarienne. Au moment de l'entrevue, elle venait de terminer une série de 72 heures de travail de nuit sur 6 jours qu'elle surnomme « son petit marathon » et s'apprêtait à profiter de ses jours de congé. Pour une bonne nuit de sommeil, le jour. Réussir à dormir en plein jour est un défi majeur. Des travailleurs de nuit et des spécialistes nous font part de leurs meilleurs trucs pour y parvenir. Un conseil qui revient fréquemment est de dormir dans une pièce aussi sombre que possible. J'ai une toile opaque et des rideaux coupe-lumière. Quand je me réveille après 2 ou 3 heures, s'il y a de la lumière, c'est beaucoup plus difficile de me rendormir, dit le surveillant en centre jeunesse Jean-François Fortin. La psychologue Annie Vallière recommande aussi de privilégier un environnement complètement sombre afin de reproduire les conditions d'un sommeil nocturne. Si on doit aller aux toilettes, on peut porter des verres fumés pour minimiser la lumière, dit-elle. Période de sommeil sacré. La psychologue Annie Vallière recommande de réserver au moins 4 à 5 heures durant la journée pour dormir. Même si on n'arrive plus à dormir, on reste dans le noir, dit-elle. Si vous avez du mal à vous endormir, elle recommande de sortir du lit, de marcher un peu autour, toujours sans lumière, et de retourner au lit après 10-15 minutes pour essayer à nouveau de dormir. Elle déconseille vivement l'utilisation du téléphone cellulaire ou d'une tablette électronique dans la chambre. Cette période ne doit pas non plus servir à avancer les tâches ménagères ni pour aller bruncher avec votre tante, comme elle l'a parfois vu lors de ses études. Il faut faire comprendre à votre famille que c'est votre nuit, dit-elle. Avoir une routine bien établie. Se coucher, se lever et manger à des heures régulières chaque jour peut être très bénéfique, remarquent les travailleurs et les spécialistes. C'est la clé du succès, dit l'infirmière Marie Pichette, qui dort et mange aux mêmes heures chaque jour. Christopher Savard, qui a passé 8 ans à travailler de nuit dans le milieu de la sécurité industrielle et de l'incendie, maîtrisait l'art de vivre complètement à l'envers avec une routine bien établie. « Je me levais à 17h30 pour prendre le déjeuner, puis je travaillais. À minuit, c'était mon dîner, suivi d'un café noir à 1h. Je soupais à 5h30 du matin, puis je regardais la télé ou buvais parfois une petite bière entre 7h et 10h. Ensuite, je dormais de 10h à 17h30. Manger léger la nuit. Pour prévenir les problèmes de digestion, la docteure Diane Boivin recommande de manger le plus léger possible la nuit, sans toutefois éliminer complètement la nourriture. On a quand même besoin d'apports alimentaires et on a besoin d'une pause repas, dit-elle. Elle conseille aux travailleurs qui consomment des stimulants, comme des boissons caféinées, de les prendre principalement en début de nuit, afin de ne pas perturber leur sommeil. Ceux qui boivent du café devraient également manger en même temps, en particulier s'ils ont des problèmes digestifs, parce que le café, ça peut être irritant pour l'estomac, dit-elle. Ne pas hésiter à consulter. Les travailleurs de nuit, qui en ressentent le besoin, sont invités à consulter un professionnel de la santé, rappelle la docteure Boivin. En cas d'insomnie chronique, il y a des thérapies pour améliorer le sommeil, dit-elle. Certaines cliniques de psychologie offrent des thérapies ciblant spécifiquement l'insomnie. La médication pour dormir peut également être discutée avec son professionnel de la santé, dit la docteure Boivin. On tend à favoriser des médicaments qui n'auront pas une longue durée d'action pour éviter qu'il y ait encore de la somnolence quand le travailleur va se présenter au travail. C'était « Les dangers de la vie à l'envers », un dossier d'Alice Girard-Bossé paru le 2 février 2025 dans La Presse.